Le petit fascicule que vous avez peut-être reçu, il y a le plan de ce qu'on va pouvoir dire de notre méditation. Ce matin, on va méditer sur la passion, cet après-midi sur la croix, en regardant les différentes personnes qui contemplent la croix. Depuis hier soir, nous sommes entrés dans le temps du plus grand amour. Le Triduum est ce moment particulier d'une grande proximité entre notre cœur et celui de Jésus. Nous avons hier essayé de vivre l'agonie à Gethsémani. Vous avez le texte de Saint Matthieu, chapitre 26, qu'on vous invite à méditer la petite méditation qu'on va vous donner maintenant, qu'on ne va pas relire. On voudrait insister sur quelques points qui nous ont marqués dans ce texte. Le premier, c'est la liberté et la volonté de Jésus. Dans Saint Jean, au chapitre 18, au verset 10, on peut lire: Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il nous semblait important de dire et de redire que Jésus est absolument libre de se donner. Il est en pleine possession de lui-même, il agit de façon libre et consciente. Il choisit d'aimer jusqu'au bout. Il est libre à chaque instant de sa passion. Il n'est contraint en rien. Le Père a tout remis dans les mains de son Fils. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. D'ailleurs, on peut remarquer que, et vous le remarquerez dans ce texte, il n'est nulle part question du diable. Dans toute l'histoire de la Passion, celle-ci se déroule sans qu'il intervienne. Contrairement d'ailleurs au serpent que certains ont pu voir quand on regarde la Passion de Mel Gibson, par exemple. Ne pas faire intervenir le tentateur dans le procédé rédactionnel permet vraiment de comprendre pleinement combien Jésus est en pleine conscience et libre. Il ne subit pas la Passion, il la vit, il la choisit. Et partout dans l'Évangile, on voit bien, pas seulement dans la Passion, que personne ne met la main sur Jésus. Il dispose de lui-même, il a la puissance de Dieu. Il utilise d'ailleurs à plusieurs reprises le nom de Dieu, Je suis, comme au verset 5 dans le chapitre 18 de Saint Jean. Que cherchez-vous, Jésus le Nazaréen? Je suis. Jésus répond par le nom de Dieu et à ce nom, ils reculèrent et tombèrent à terre, nous dit Saint Jean. Saint Jean précise cela pour rappeler que la divinité de Jésus n'a pas disparu pendant sa passion. Le Seigneur l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom.
Un point important à retenir pour ce Vendredi Saint, c'est à méditer, c'est le combat des volontés qui a eu lieu à Gethsémani. Souvent, on a du mal à comprendre et on se dit, Jésus a été tenté, Jésus a hésité. Pour bien rentrer dans cette liberté du Christ, il faut essayer de saisir ce combat des volontés. Jésus est vrai Dieu. Et il a l'unique volonté divine en lui. Il est aussi vrai homme et il a comme nous une volonté humaine. Et notre volonté humaine est ainsi faite qu'il y a en nous la volonté désirante, appétitive, qui cherche le bien à travers ce qui est bon et ce qui est bon aussi à nos sens. Et puis il y a cette volonté appétitive, elle est informée par la volonté raisonnée, par notre raison. Nous sommes ainsi faits. Jésus est ainsi fait aussi. La volonté raisonnée du Christ a toujours suivi la volonté divine, ne s'en est jamais détachée. Mais Jésus est vrai homme et sa volonté appétitive cherche à faire le bien à travers ce qui a bon goût, ce qui est bon. Or, ce qui se présente devant lui est terriblement amer, il le sait. Et donc, ce moment à Gethsémani où Jésus prie pour que la coupe s'éloigne de lui, ça n'est pas une hésitation à faire le bien. C'est un moment où Jésus éduque dans le temps, parce qu'il est vraiment homme, comme nous, où Jésus éduque ce désir qu'il a, cet appétit intérieur, à s'accorder à sa volonté qui est de faire celle du Père. Et Jésus triomphe dans cette volonté, dans cette, ce temps de débat intérieur. Le bien triomphe, la volonté divine triomphe. Comme cette volonté divine triomphe en lui, nous-mêmes aussi, dans les moments où le bien a mauvais goût, nous sommes de nouveau rendus capables de triompher. Jésus a permis à la volonté humaine de nouveau de s'accorder à la volonté divine, ce que l'homme et la femme n'avaient pas souhaité faire dans le jardin en Genèse 3. Donc, dans ce combat, Jésus a agi pleinement en Fils de Dieu. Et grâce à lui, nous aussi, de nouveau, nous pouvons agir pleinement en Fils de Dieu. Mais nous comprenons que la mission ne fait pas forcément plaisir. En fait, il y a ce décalage entre ce que nous voulons faire et ce vers quoi nous portent nos désirs. C'est aussi ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Vous savez, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas. Eh bien, Jésus, dans ce combat, il a permis à ces deux désirs de s'accorder. Donc, la passion, c'est d'abord la guérison dans l'humanité d'une volonté qui a été biaisée, qui a été blessée et qui, de nouveau, est par Jésus, redressé et capable de s'accorder à celle de Dieu. Voilà. Quand nous-mêmes, nous sommes dans ce type de combat, et que par la prière, par l'abandon au Seigneur, nous sommes comme le Christ vainqueur, alors nous consolons le cœur du Seigneur. Parce que nous lui montrons que ce combat qu'il a mené, ce combat amer et douloureux, il ne l'a pas mené en vain. Nous le laissons informer notre propre combat et le rendre vainqueur lui aussi. Voilà, on vous a mis aussi une belle citation, on ne va pas toutes les dire, mais vous avez de belles citations à méditer après. Voilà, on vous a mis une belle citation du cardinal Ratzinger sur ce combat. Voilà, cette tentation qu'a vécu le Christ à Gethsémani, eh bien, il faut bien la comprendre comme étant aussi la nôtre. Et pendant ces 3 jours, eh bien, demandons au Seigneur, demandons à l'Esprit-Saint cet abandon à la volonté du Père et cette force pour pouvoir rééduquer notre volonté appétitive à faire la volonté du Père. Il y a un autre élément sur lequel on va s'arrêter très rapidement, c'est l'expression de la coupe qui est curieuse dans ce passage de Matthieu. On a aussi entendu pendant l'office ce matin parler de la colère. Alors de quoi on parle? Est-il possible que ce Dieu miséricordieux soit en colère? A-t-on le droit comme chrétien de parler de la colère de Dieu? C'est une erreur de l'évacuer trop vite. Dieu se fâche contre le mal. La colère de Dieu existe, toute la Bible en parle. On parle du jour de la colère. La coupe de la colère, c'est la puissance que Dieu mobilise contre le péché. C'est le jugement de Dieu contre le péché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la passion, le Christ se charge de cette coupe, amère et douloureuse, pour que nous-mêmes, qui avons choisi le péché, n'ayons pas à la porter. Parce que le poids de cette coupe, c'est la mort. La lutte intérieure de Jésus, c'est aussi ce consentement, laisser entrer le péché du monde dans son existence personnelle, corporelle et psychique. La lutte du Seigneur à Gethsémani, c'est aussi ce consentement à laisser entrer le péché du monde dans son existence. Arrêtons-nous un instant sur les sentiments de Jésus. Jésus est vrai homme, il a de vrais sentiments. Le premier sentiment, c'est bien l'horreur de ce péché. Jésus ne nous sauve pas comme un sauveteur qui renvoie une bouée depuis le bateau. Jésus nous sauve comme un sauveur qui plonge dans la mer. Il plonge dans l'océan du péché. Il a accepté à Gethsémani de plonger dans l'abîme de l'horreur du péché. Or, Jésus est le tout pur. Il est le tout uni au Père. Il voit, à cause de sa pureté, il voit particulièrement clairement toute la marée immonde du mal. et il voit qu'il va devoir s'en revêtir, la pénétrer, la traverser. Saint Jean emploie un terme, tétaractai, qui est le même mot qui est employé pour le trouble de Jésus. Vous savez, au moment où il arrive devant le tombeau de Lazare, on dit que Jésus est troublé, c'est le même terme. Ou bien son trouble au Cénacle au moment de la trahison de Judas dont nous avons parlé hier, c'est le même terme aussi. Ce trouble, c'est bien plus fort qu'un trouble, c'est une angoisse épouvantable. C'est l'effet que fait à Dieu le péché. Parce qu'il est le contraire de la vie, parce qu'il est le contraire de Dieu, et qu'il est le contraire de l'homme. Au mont des Oliviers, Jésus a consenti à traverser ce contraire de Dieu. Il a même accepté, l'Écriture sainte nous le dit, il a même accepté d'y être identifié. En Galates 3, verset 13, on nous dit « Il a été fait péché ». Lui qui est le tout pur, il accepte cette identification au mal. En fait, acceptant cette identification, il l'assume, il le porte. Et il rejoint l'homme pécheur au plus profond de sa détresse, au plus profond de sa misère. Il endosse les conséquences du péché. Nous étions incapables de revenir au Père. Le Christ a été identifié à notre péché et seul il peut présenter au Père un acte parfait de repentance. Donc au mont des Oliviers, cette nuit, le Christ a accepté de se laisser pénétrer par le péché. Lui, le Fils parfait, parfaitement uni au Père, il a consenti à porter la malédiction du péché entièrement sur lui. Il y a donc Galates 3, verset 13 qui nous dit cela, et puis la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Pourquoi le Christ doit-il passer par là? L'Église a compris depuis des siècles que ce qui n'est pas assumé par le Christ n'est pas sauvé. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est la raison pour laquelle il s'est fait homme, pour assumer la condition humaine et que cette condition humaine soit sauvée. Donc pour nous sauver de notre condition de pécheur, le Christ, sans lui-même avoir péché, doit aussi assumer cette condition, la porter. Pour que le rejet de Dieu puisse être sauvé, le Christ doit porter le rejet de Dieu. C'est pourquoi il éprouve, dit un grand théologien, non leur péché certes, mais le caractère désespéré de leur résistance contre Dieu. Ça, c'est un sentiment que le Christ éprouve, alors qu'il lui est intégralement contraire. Donc, dans sa passion, et ça commence à Gethsémani, mais ça va vraiment être de plus en plus en crescendo aujourd'hui, le Vendredi Saint, Jésus a ressenti, souffert, la séparation d'avec le Père, parce que c'est ça le péché, c'est être séparé du Père. Et Jésus a consenti à ressentir, à expérimenter, à souffrir cette séparation. Son péché, son destin ne se sépare plus de celui des pécheurs, et ce d'autant plus que son amour est plus grand. D'autant plus qu'il en est conscient, d'autant plus qu'il aime le Père et qu'il lui est uni, cette séparation est cruellement vécue par lui, est absolument vécue par lui. Et je voudrais... C'est toi qui vas la lire.
Précisément parce qu'il est le Fils, il éprouve en profondeur l'horreur, tout le dégoût et la perfidie qu'il doit boire dans ce calice qui lui est destiné. C'est tout cela qu'il doit accueillir en lui, afin qu'en lui, tout cela soit privé de pouvoir et vaincu. Mon péché, à moi aussi, était présent dans ce calice d'épouvante. C'est ce que me dit le cardinal Ratzinger. L'autre douleur dont le Seigneur va se charger, c'est la douleur de l'abandon. Il est abandonné de Dieu et abandonné des hommes. Au jardin des Oliviers, le sentiment qui subsiste, ce que ressent le Seigneur pour pouvoir rejoindre tous ceux qui se sentent abandonnés de Dieu ou qui l'ont rejeté, le sentiment qui subsiste une fois que Jésus a consenti à la coupe, c'est ce sentiment d'être totalement, absolument séparé du Père. Et d'ailleurs, il y a ce cri d'abandon sur la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'on lira cet après-midi. Donc Jésus se sent abandonné du Père. Est-ce que cela m'arrive de me sentir abandonné de Dieu, jeté dans le monde sans aide, sans soutien, sans amour? Jésus a vécu cela, il a voulu le porter pour moi, parce que lui a vécu cette souffrance avec toute son absolue pureté, il m'en a sauvé. Et donc quand je vis cette souffrance, je peux regarder le crucifié, entendre son cri, « Non, je ne suis pas seul. » Donc ce sentiment d'être abandonné de Dieu, ce que vit aussi le Seigneur lors de dans ce jardin de Gethsémani, c'est l'abandon des hommes. On sait que Pierre, qui lui avait juré fidélité, va le renier. Et sur la croix, il sera seul. La solitude du Christ est très humaine. Tous l'ont abandonné. Et on le lisait hier soir, par trois fois, il demande à Pierre, Jacques et Jean, ceux qui étaient avec lui sur la montagne de la Transfiguration, ceux qu'il a invités à être avec lui à Gethsémani, il leur demande de veiller, de prier, de demeurer avec lui, et par trois fois, il doit les réveiller. En présence de ces ensommeillés et peu disposés à s'alarmer, le Seigneur dit « Mon âme est triste à en mourir ». Alors peut-être que moi-même je ressens une solitude aussi très concrète, un abandon des hommes. Un abandon d'un homme, même ou d'une femme, même de ceux qui devaient être mes amis, mes parents, mon conjoint. Jésus a voulu traverser cette souffrance, il l'a vécu avec moi, pour moi. Il l'a vécu, il l'a combattu. Il l'a vaincu et il m'invite à entrer dans un acte de foi sur sa présence et sur la tendresse de Dieu.
Donc cette citation de Joseph Ratzinger est magnifique. Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime, de toutes les tribulations de l'être homme. Ici, l'abîme du péché et du mal dans tous ses aspects a pénétré les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, les disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu aussi pour moi.
Le troisième sentiment du Seigneur, l'acte, la réponse du Seigneur dans cette situation-là, c'est la prière. Dans son abominable angoisse, Jésus ne cesse d'être tourné vers le Père et de prier. Il souffre cet abandon qu'on a essayé de décrire, ce sentiment d'être rejeté par Dieu le Père, mais il n'en reste pas à ce sentiment. Il parle avec le Père avec le plus de tendresse, avec persévérance et insistance. Ce n'est pas dans ce sentiment qu'il croit, il croit dans le Père. Vous connaissez ces paroles, « Abba, Père ». Et Matthieu précise qu'il dit trois fois la même chose. Donc, alors qu'il se sent rejeté du Père, il pose l'acte d'obéissance le plus radical. C'est sûrement une invitation aussi pour nous, il nous semblait, d'insister, de ne jamais avoir peur de rabâcher le nom de Jésus quand je me sens abandonné de Dieu, surtout de ne pas lâcher la prière, qui est la réponse du Seigneur. Persévérer dans la fidélité, même dans le noir. L'amour, surtout dans l'épreuve, n'est pas uniquement question de sentiments ou de ressentis, mais parfois un véritable acte de foi dans la nuit et dans la tempête.
Dans l'Épître aux Hébreux, que nous avons entendu hier, il est évoqué la passion du Seigneur et les sentiments du Christ. Et l'Épître au chapitre 5, verset 9, dit « Ayant présenté avec une violente clameur et dans les larmes des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé en raison de sa piété. » En raison de sa piété. Voilà, aussi mystérieux que ça puisse paraître, Jésus a quand même été crucifié. L'Écriture sainte nous annonce qu'il a été exaucé, précisément à cause de sa prière dans ce terrible moment d'angoisse, parce qu'il l'avait vécu dans la prière et dans la confiance. Une confiance qui pleurait, une confiance qui criait, mais une confiance réelle. Donc ces trois jours saints sont pour nous l'occasion de présenter notre propre supplication, notre propre angoisse, notre propre clameur vers le Seigneur. Que notre clameur ne soit pas une raison de nous séparer du Père, que notre clameur soit une raison de nous tourner vers Lui, de clamer vers Lui. Le Seigneur nous a précédés, le Seigneur Jésus nous a précédés dans ses angoisses. Il les vit avec nous, trouvons auprès de Lui le secours. Le deuxième moment que nous voulions contempler avec vous ce matin, c'est cette parole sur le serviteur souffrant, qu'en Isaïe chapitre 52 et 53, nous en avons lu une partie pendant l'office des ténèbres ce matin. Ce passage de l'Écriture sainte montre combien le pur qui assume le péché sauve l'humanité. Le contact de la pureté absolue du Christ avec le péché lave le péché. Souvent, on a l'impression qu'une tache sur quelque chose de propre souille toute cette propreté. Avec le Christ, c'est l'inverse. Un contact de la pureté avec la souillure nettoie toute souillure. Peut dire Joseph Ratzinger, voici que le bien est toujours infiniment plus grand que la masse tout entière du mal, pour autant qu'elle soit terrible. C'est quelque chose à retenir parce qu'on se sent tellement sali par le mal qu'on fait, par le mal que l'on nous fait. Et parfois, on a le sentiment que c'est un mal tellement épouvantable qu'il faudra une montagne de bien et qu'en fait, on n'y arrivera jamais. Mais comprenons que le bien est un acte divin et que le mal ne l'est pas. Donc, un tout petit bien nettoie l'océan de la saleté du mal. Et avec le Christ, ce n'est pas un tout petit bien, mais c'est le bien absolu. Le mal est intégralement vaincu par ce contact que le Christ a accepté en sa chair. Quand nous contemplons la passion, ce n'est pas du voyeurisme ou du sadisme. Nous contemplons l'amour qui se charge du mal pour nous en délivrer. C'est pour ça que la croix est le signe de notre victoire, de la victoire du bien. On va essayer d'entrer dans cette contemplation. Comment est-ce que la passion peut nous sauver ? Saint Luc, au chapitre 22, verset 18, dit « Il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit. Il a été compté parmi les scélérats. » Et quand Jésus dit ça, il renvoie à l'épisode du serviteur souffrant en Isaïe 52-53. Il s'identifie à ce serviteur souffrant. Il y fait référence. Peut-être que quand nous aurons le temps de prier aujourd'hui, nous pourrons prendre notre Bible et relire ces passages du livre d'Isaïe, chapitre 52, 13, et puis tout le chapitre 53, qui, des siècles et des siècles auparavant, décrit d'une façon bouleversante la passion du Seigneur. Ce passage du livre d'Isaïe, il est précédé immédiatement d'une annonce du salut. Et cette certitude est répétée. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il les justifie parce qu'il est identifié avec le péché, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Il accepte silencieusement de porter nos souffrances et nos douleurs, au lieu de se faire notre accusateur. Et ce faisant, il rétablit la vérité. Au début, dans ce passage d'Isaïe, l'assemblée ne voit rien. Elle voit juste un scélérat, c'est le terme qui est employé, un malfaiteur, objet de mépris, abandonné des hommes, familier de la souffrance, quelqu'un devant qui on se voile la face. Ce qui est d'étonnant dans ce texte, c'est combien il marque la ressemblance du serviteur avec le péché. Or, c'est justement cette ressemblance qui permet de rétablir la vérité. À un moment donné, le texte pivote et il est dit « Ce sont nos souffrances qu'il portait. Il a été transpercé à cause de nos crimes. » En fait, quand dans sa passion, Jésus accepte de porter le péché et que le péché le marque physiquement, ainsi est dénoncée toute l'horreur du péché, puisque physiquement, il n'a plus le visage d'un homme, comme dit le livre d'Isaïe, alors la vraie conséquence du péché est visible. Saint Jean nous dit au chapitre 8, verset 44, je crois, que Satan est homicide dès le commencement. C'est cela le péché. Le péché nous assassine. Le péché nous déshumanise. Et c'est cela que le Christ nous montre quand il accepte de l'assumer et de le porter physiquement. Il n'avait plus le visage d'un homme. Alors la vérité du péché est montrée. Le péché est homicide.
Parce que nous savons bien, le propre du péché, c'est de se cacher. Et on le voit bien dans notre expérience personnelle. Il y a un grand angle mort quand on ne s'est pas confessé depuis longtemps. Notre conscience est obscurcie. Et alors le péché a besoin d'être révélé. Et c'est pourquoi Jésus va le révéler. On se souvient aussi du prophète Nathan avec le roi David, qui va lui raconter l'histoire d'un homme qui est sa propre histoire. À la fin, on peut lire dans ce passage, « Cet homme, c'est toi. » Et David avait perdu conscience de son péché. On peut aussi se remémorer ce passage du livre des Nombres, vous savez, dans le désert, quand ces morsures de serpents déciment le peuple. Le Seigneur demande à Moïse d'élever sur un bâton le serpent d'airain. Et cette image même du mal, quand elle est exposée au regard, elle est cause de salut. Si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait vers le serpent d'airain et restait en vie. Donc ainsi, dès l'Ancien Testament, un regard vers le mal exposé joue un rôle salutaire. Et là, le serviteur, assumant le péché, en prend la ressemblance et ainsi il le révèle. Il révèle, comme vient de le dire Juliette, la déshumanisation complète du péché. Il n'avait plus le visage d'un homme. Il a été retranché de la terre des vivants. On retrouve aussi cette idée que le péché exclut de la communauté des hommes. Il est homicide depuis le commencement. Et Joseph Ratzinger dit que le diable est la non-personne, la désagrégation, la déchéance de l'existence personnelle. En fait, le péché détruit tout simplement l'être humain. Et c'est pourquoi l'apparence de celui qui porte le péché ne peut plus être celle d'un homme. Alors que sa figure devait être image de Dieu, elle en devient épouvantable.
Le péché nous tue. C'est cela que le Christ a voulu nous montrer en laissant tout son être, y compris son corps, être à ce point touché, traversé par le péché. Il y a un passage qui est bouleversant dans le récit de la Passion. C'est en Jean 19, verset 5, le moment où l'homme des douleurs, le serviteur souffrant, est exposé au regard du peuple. Et que dit Pilate à ce moment-là, qui ne sait pas ce qu'il dit ? Il dit « Voici l'homme ». Or, cette parole nous renvoie au tout début de l'Écriture sainte. En Genèse, chapitre 3, verset 9, « L'homme a péché, et comme il a péché, il s'est détaché du regard de Dieu, il s'est caché. Et Dieu l'appelle, « Adam, où es-tu ?» Et personne ne répond. Sauf en Jean, chapitre 19, verset 5, « Voici l'homme. » Alors Jésus montre ce qu'est devenu l'homme. Dans l'Ecce Homo se reflète ce que nous appelons péché, ce que devient l'homme lorsqu'il se détourne de Dieu et prend en main de manière autonome le gouvernement du monde. Le Sauveur ne contourne pas le péché. Il le pénètre, il l'investit, il s'en revêt et le vainc de l'intérieur. Saint Thomas d'Aquin dit « c'est une prise de possession ». Bien sûr que la mort n'a plus aucun pouvoir, comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Prise de possession du mal par le bien. Ô mort, où est ta victoire ? C'est pour ça que nous avons déjà pu chanter ce matin la victoire. Sentiment que c'est la déréliction absolue, que c'est l'échec absolu ce vendredi saint. La victoire est déjà présente et nous y reviendrons. Mais surtout aujourd'hui, il est le temps de reconnaître notre péché comme le peuple en Isaïe 52-53. Le Seigneur s'expose à nos regards, voici l'homme. Ce faisant, il expose notre péché à nos regards. Allons-nous nous détourner ?
Donc un temps pour reconnaître notre péché. Nous le lisions hier, nous parlions de la somnolence des disciples à Gethsémani. C'est un des drames qui nous traverse, un manque de sensibilité pour Dieu. Nous ne sommes plus sensibles à l'amour de Dieu et donc à la reconnaissance de notre péché. Seigneur, aujourd'hui donne-moi une plus grande conscience de mon péché et du salut que tu m'offres. Que j'arrête de somnoler, que je sois plus sensible à ton amour. C'est un jour pour donner notre péché au Christ, parce qu'il l'a déjà porté, parce qu'il le connaît, parce qu'il veut nous en débarrasser. Vous connaissez peut-être cette histoire de Saint Jérôme, avant qu'il ne devienne un exégète savant et réputé. Il avait essayé de vivre en ermite dans une grotte du désert de Juda, en se livrant à toutes les ardeurs, les multiples formes d'ascèse, en fait, qui étaient à l'époque en usage parmi les moines. Et les fruits s'en faisaient attendre. Et ça avait fini par le plonger dans le désespoir. Et il n'avait aucune réponse venue du ciel, en dépit de tous ses efforts. Et soudain, il remarqua un crucifix qui était venu se fixer entre les branches desséchées d'un arbre. Jésus rompit le silence et s'adressa à Saint Jérôme du haut de la croix. « Jérôme, qu'as-tu à me donner ? Que vais-je recevoir de toi ? » ?»« La solitude dans laquelle je me débats, Seigneur, » répondit-il. « Excellent, Jérôme, je t'en remercie, tu as vraiment fait de ton mieux. Mais as-tu quelque chose de plus à m'offrir ?» Jérôme n'hésita pas un instant. Bien sûr qu'il avait une foule de choses à offrir au Seigneur. Naturellement, Seigneur, mes jeûnes, la faim, la soif, je ne mange qu'au coucher du soleil. Et Jésus répliqua, « Merci Jérôme, je le sais, tu as fait de ton mieux, mais as-tu encore autre chose à me donner ?» Et Jérôme énuméra, « Mon célibat, mes veilles, mes prières. » Cela continua longtemps et Jésus avait un sourire sur les lèvres à chaque mention. « Jérôme, as-tu quelque chose de plus à me donner ? À la fin, Jérôme ne put que balbutier « Seigneur, je t'ai déjà tout donné. Il ne me reste vraiment plus rien. » Alors, il se fit un grand silence dans la grotte et jusqu'aux confins du désert de Juda. Et Jésus répliqua une dernière fois « Jérôme, tu as oublié une chose. Donne-moi encore tes péchés afin que je puisse te les pardonner. » Aujourd'hui est un jour idéal pour se confesser, pour reconnaître son péché, pour le dire et pour en être lavé par Dieu.
Le Christ, assumant notre péché, le met donc en lumière et permet qu'il ne puisse plus se cacher. Il nous permet de le reconnaître et il nous donne de nouveau la liberté de le refuser. Mais surtout, le Seigneur, qui assume nos péchés en ce jour, nous montre son immense amour. Ce qui est central dans la passion, c'est l'amour infini de Dieu pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous, bien plus que notre péché. Dieu ne peut pas laisser Adam se détourner de lui. Il vient lui-même prendre sa place afin de rétablir la communion entre eux. Tout ce qui se passe pendant ces 3 jours survient par amour pour moi. Jésus ne me sauve pas sans moi. Jésus souhaite que j'entre dans ce chemin du salut. Saint Augustin a dit « Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous ». Dans ces 3 jours saints, nous célébrons le salut déjà accompli. La victoire est acquise. Mais pourquoi les célébrons-nous? Pourquoi y revenons-nous, somme toute? Non pas parce que nous faisons mémoire, parce qu'aujourd'hui, ça se passe. Et aujourd'hui, la question qui m'est posée, c'est « Veux-tu participer à ton salut et à celui du monde? Veux-tu entrer dans ce salut ?» C'est pour ça que nous célébrons ces 3 jours saints, c'est pour ça que nous sont proposées des retraites. C'est parce que notre propre liberté est sollicitée par le Seigneur. Il ne me sauve pas sans moi. Il me sauve à travers tout ce que je suis, tout ce que je vis. C'est moi tel que je suis qu'il sauve et pas le genre humain en général. Et en même temps, dans ce salut, et on le voit encore dans ce texte du serviteur souffrant, Isaïe 52-53, alors qu'il nous sauve chacun tel que nous sommes, dans notre personne la plus singulière, la plus individuelle, il y a un « nous » qui se forme. Vous pourrez regarder dans le texte. C'est une addition de « je » qui vivent la même chose et qui se reconnaissent liés par cette chose. Il y a une communauté formée par ceux qui regardent vers celui qu'ils ont transversé, selon le livre de Zacharie et l'évangile selon saint Jean. Ceux qui lèvent les yeux vers ceux qu'ils ont transpercés et qu'ils se laissent transpercer eux-mêmes dans ce regard forment une communauté. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours. Et ça fait partie du salut. La communauté ainsi formée participe de ce salut, elle y contribue. Les bras ouverts de la croix reforment l'unité du genre humain. Et là aussi, nous avons un acte de foi à poser. Nous avons une liberté à mettre en acte. Est-ce que je veux participer de cette communauté du salut, cette communauté des sauvés qui est la communauté du salut ? On va terminer en regardant de nouveau les Te Deum et en y constatant quelque chose. Jésus a été atrocement flagellé. D'après le linceul de Turin, 100 à 120 coups de fouet, des fouets dont les lanières étaient lestées de pierre. En général, les suppliciés en mouraient. Et alors Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Jean 19, 5. Cet homme est défiguré par le péché qu'il porte à notre place. Mais il y a autre chose. Frappé à mort, bafoué, humilié, déshumanisé, souffrant atrocement, il reste debout. Il est vivant. Il reste l'image de Dieu. Sa profonde dignité ne peut lui être enlevée. Là encore, on peut déjà deviner ce qui éclatera au jour de la résurrection. La vie est plus forte. Le Dieu caché reste présent en lui. Depuis que Jésus s'est laissé frapper, toutes les personnes blessées et humiliées sont justement image de Dieu qui a voulu souffrir pour nous. Au cœur de sa passion, Jésus est une image d'espérance. Dieu est du côté de ceux qui souffrent, dit Joseph Ratzinger. Dans la passion et depuis l'Ecce Homo, il n'y a plus de situation qui retire la dignité de l'homme. Parce que Dieu est venu habiter toute la déchéance humaine. Il n'y a pas un péché, pas un sévice qu'on m'ait infligé ou péché que j'ai fait qui me sépare de Dieu. Jésus a tout assumé.
Dans le temps de silence et de prière personnelle qui suit, nous vous proposons de reprendre ces deux chapitres d'Isaïe, 52, verset 13, et le chapitre 53, ou Saint Jean, chapitre 18 et 19 jusqu'au verset 16, pour contempler l'Ecce Homo. Nous vous proposons d'exprimer au Seigneur, comme le Christ à Gethsémani, votre supplication, votre propre clameur, vos propres larmes, celles des êtres qui vous sont chers, celles du monde. Et en même temps, nous vous proposons de poser l'acte de foi que le Seigneur prend toutes nos misères, toutes les misères du monde, dans sa passion. Seigneur, je crois que dans ta passion, tu as assumé ma solitude, mon addiction, mon infidélité, ma maladie.
Vous pouvez vivre ce temps de silence ici ou dehors, si vous préférez. Et nous nous retrouvons dans un petit quart d'heure. Dans l'église. Ah non, pas dans un petit quart d'heure. Enfin, si, mais...
Alors, après cet enseignement, évidemment, nous avons tous le désir de rester en silence et d'accueillir tout ce qu'on a entendu. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me taire, mais on avance maintenant, on fait un pas de plus, on est presque à la résurrection, comme les femmes au tombeau qui ont découvert le Christ et qui sont allées très, très rapidement dire aux apôtres qu'il était ressuscité. Alors, simplement 5 minutes, et après on reprend le silence et la prière, pour vous présenter un petit peu la rencontre au cours du chemin de croix. Alors, il s'agit d'aller à la rencontre des personnes qui regardent la croix passer. Alors, imaginez-vous, vous êtes à Jérusalem, le Jésus passe avec la croix. Il y a ceux qui sont étonnés. Il y a ceux qui disent, il a sûrement bien dû le chercher puisqu'il est là. Il y a ceux qui ricanent, les indifférents. Et puis il y a ceux qui sont pris de compassion pour cet homme qui peine, qui peine, qui peine. Et avec tout ce que nous avons entendu, moi j'ai qu'une envie, c'est de me taire et vraiment ça me prend. Cette compassion qu'on peut avoir pour ceux qui nous entourent. Voilà. Alors, nous vous proposons maintenant d'entrer dans la joie de l'annonce, tout simplement, de ce que vous avez vu, voilà, avec cette croix, et dire aux personnes qui sont autour, si vous le voulez bien, ce n'est pas du tout il faut, si vous voulez bien, aller à la rencontre de ceux qui sont en train de regarder le chemin de croix. C'est quelque chose de merveilleux, c'est tout simple. Vous êtes dans une ambiance de prière, forcément. Vous avez un cœur de prière, mais vous avez aussi un cœur joyeux qui a envie d'aller annoncer aux autres. Qu'est-ce que vous avez vu ? Alors moi, quelquefois, je dis, mais vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez vu la croix ? Est-ce que vous êtes au courant ? Mais voilà, de façon très simple. Et je me suis aperçue que 80% des gens qui regardaient ce chemin de croix ne savaient pas ce que c'était que le Vendredi Saint. Vous voyez ? Donc ça n'est pas quelque chose en plus. C'est vraiment aller annoncer à nos frères bien, tout ce que nous avons reçu. Voilà. Cette joie, et avec un cœur de compassion, nous allons vers les autres. Alors, comment faire ?
Peut-être les modalités, quand même. Voilà, ce qu'on vous invite à faire, donc tous ceux qui souhaitaient participer au chemin de croix, on vous expliquera les modalités tout à l'heure, mais c'est de venir nous retrouver tout à l'heure à 12h15 au niveau de l'éléphant. Pour juste un moment de partage avec les gens dans la rue que vous allez rencontrer. Comme l'a dit Marie-Pierre de façon très belle, il ne s'agit pas de convertir. Ça, c'est l'Esprit Saint qui s'en occupe. Vous, votre rôle, c'est juste d'être là. Et quand vous voyez quelqu'un qui regarde, qui observe et qui est ouvert et disponible à une discussion, c'est d'abord de lui dire bonjour, de lui demander s'il a deux petites minutes et ensuite d'ouvrir la discussion avec lui sur ce qui est en train de se passer. Et ensuite, faites-vous confiance, témoignez. On ne vous demande pas de voilà, il n'y a pas de discours. C'est juste d'être là, présent. Laissez l'esprit qui, lui, vous donnera les mots et d'avoir un échange fraternel avec les gens que vous allez rencontrer. Parce que ce que Marie-Pierre et d'autres, on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui regardent ce qui se passe. On va être à l'heure du déjeuner, on va être sur l'île de Nantes, il y a un peu de passage. Et les gens, en fait, ils sont en demande de comprendre ce qui se passe, d'échanges, de discussions. Ils ont des questions et si on n'est pas là pour leur répondre, c'est dommage. Voilà. Donc ceux qui se sentent ouverts à l'échange, à la rencontre, bah, vous êtes les bienvenus, peut-être dans les modalités expliquées.
Alors, si vous ne l'avez jamais fait, on vous expliquera, on va vous mettre en binôme, si vous voulez bien, quelqu'un qui a déjà peut-être parlé, qui est déjà allé à la rencontre des personnes, avec une personne qui a moins l'habitude. Mais vous savez, c'est tout simple, il ne faut pas s'en faire. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire. Par contre, si vous avez quelque chose dans le cœur, allez, il faut y aller, c'est le moment. Alors, vous prendrez tout à l'heure des paroles du Seigneur, voilà, vous pouvez donner ça tout simplement. Est-ce que vous dites, est-ce que je peux me permettre de vous donner un petit papier, puis les gens le prennent. Moi, l'année dernière, il y a une boulangerie qui est sur l'île de Nantes, là-bas, et puis tous les petits mitrons, les personnes qui servent étaient à l'heure de leur pause. Alors, ils étaient assis autour d'un café, là, dehors. Puis moi, je me suis assise à côté d'eux, tout simplement, voilà. Je leur ai dit, c'est l'heure de la pause, on a commencé à bavarder, voilà, sur le pain, sur ce qu'ils faisaient, c'était très intéressé. Puis je leur ai dit, je me suis assise à côté de vous parce que je suis chemin de croix. Voilà. Et voilà comment ça s'est fait tout simplement. Donc vous avez des paroles du Seigneur à donner si vous voulez bien. Et puis vous avez aussi des petits évangiles à donner également, si vous sentez que c'est le moment des petits évangiles. Voilà. Et puis, moi, j'ai un évangile, des évangiles en arabe, mais ça, c'est plus particulier. Si vous vous sentez vraiment poussé à donner à quelqu'un que vous rencontrez, vous venez me voir, je vous donnerai un. Voilà. Et puis, j'ai aussi des médailles de la rue du Bac, des médailles de la Sainte Vierge. Et ça, tout le monde, en général, accepte de les prendre. Et vous leur dites que c'est vraiment pour vous rappeler la présence du Seigneur. Voilà. Pour inviter à la veillée pascale le samedi soir des petits flyers. Voilà que grâce à Astrid doit avoir, je suppose. Voilà. Merci.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous à 12h15 au niveau de l'éléphant. Vous verrez, on sera assez nombreux devant le café et le manège. Et à ce moment-là, ceux qui en auront le désir pourront se mettre en file avec d'un côté ceux qui ont déjà l'habitude de la mission dans la rue, ceux qui ne l'ont jamais fait, on y va à deux et comme ça vous permet, si vous n'avez pas l'habitude mais vous avez le désir de le faire, d'être accompagné par quelqu'un qui va vous guider et vous avez juste vraiment à vous laisser porter.
Alors merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes de le faire.